Alerte Coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, allez travailler, toussez, lavez-vous, toussez, allez travailler, toussez, allez travailler dans un mouchoir. Restez chez vous si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, allez chez un professionnel de santé si le télétravail est impossible. Tousser est interdit. Respecter ses enfants à usage unique est interdit. Plus d'informations au 0800 000 000 ou sur gouvernement.barrière. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, puis jetez-les.
Le masque et le rhume.
Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un vent de révolte?
T'as entendu la télé?
Bah j'ai entendu, ouais, comme tout le monde. Allez, on va pas se laisser faire, hein.
Ça se parfaitement.
Ouais. Personne n'est pour la guerre.
Franchement?
Oui, franchement, là on se parle vraiment, sans bluff, là.
Franchement, alors?
Ta vie ne vaudra plus un prêt!
Alors s'ils pètent tous à la fois, ça risque d'abîmer leur petite gueule. Va arriver un moment où on pourra plus, ça c'est sûr. Et alors là?
Oulalalalala.
Ça vous étonne pas?
Ah bah oui, mais moi ce que je comprends, c'est que les trois quarts de la planète, ils sont dans la merde alors.
Pourquoi moi là? Et pourquoi pas les autres alors?
T'es tout seul, connard.
C'est une blague ou quoi?
C'est sérieux et puis... c'est même grave.
Ah bah alors c'est que je rêve, c'est que je suis en train de rêver alors.
Mais oui, vous rêvez.
Mais non.
Bah c'est un cauchemar.
Mais non, tu vas pas mourir, qu'est-ce que c'est cette histoire?
C'est manger ou être mangé. Eat or to be eat.
J'ai peur.
Ouais.
Je te sers un coup de pommard?
Non, mais on peut boire ensemble si tu veux.
Mourir sous, c'est mourir debout et je me fous des racontards.
Excuse-moi, mais j'ai des doutes. Je suis peut-être con, mais j'ai des doutes.
C'est une libération. Si on ne prend pas ça comme une thérapie.
Alors, le prochain extrait, on va écouter un petit son de l'an 01. Un film de 1973 de Jacques Doyon qui narre l'arrêt de l'économie de marché. Voilà, c'est un film un peu emblématique de la contestation libertaire des années 70. On écoute un petit son maintenant tout de suite.
Dis donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi faudra économiser l'essence?
Les gars des raffineries ont décidé d'apprendre la musique.
Oh, blague?
Mais non, c'est officiel. Bientôt, c'est l'an 01.
Et vous y croyez, vous, à ces histoires?
Un petit peu que j'y crois. Toute la semaine à remplir des réservoirs, j'y crois. Et s'il y a quelqu'un qui le fera, ce sera moi.
Et qu'est-ce que vous ferez pour nourrir votre famille? Vous irez chasser le bison?
Ben, on enverra que les gars qui fabriquent ces cochonneries aller gratter la terre avec leurs pieds, comme ça on manquera pas de blé.
On est sur terre pour travailler?
C'est pas évident, mais pas évident du tout. De toute façon, on aura le temps d'y réfléchir et de chercher à ce qu'on fait sur terre, si on travaille ou quoi. Et puis s'il faut travailler, bon, on pourra se flinguer, mais alors on saura pourquoi.
Et vous faites ce numéro à tous vos clients?
Ben, oui, mais j'en rajoute à chaque fois. Je me rôde.
Ah.
Alors là, ça va être un petit moment lecture. Je vais vous lire des extraits d'un livre qui s'appelle « Enfants bâtisseurs » de Yves Latard et Gérard Prémel. C'est un livre qui nous présente les activités d'enfants encadrés par des animateurs sur des terrains vagues, en particulier sur un terrain vague à Paris à la fin des années 70. Alors moi particulièrement, ça m'a rappelé, comme je suis un peu un enfant de la banlieue, à quel point, quand j'avais entre 10 et 15 ans, c'était compliqué de trouver des terrains de jeu, des endroits où on pouvait jouer au foot, faire un peu tout ce qu'on avait envie, faire du skateboard. Et on était tout le temps à la recherche d'endroits où on n'allait pas se faire emmerder par les adultes, la police, la mamie du coin. Donc voilà. Quel est donc aujourd'hui, dans une grande métropole telle que la région parisienne, le territoire de jeu des enfants, et plus particulièrement, le territoire de jeu de la tranche d'âge comprise entre 12 et 16 ans? Sans doute y a-t-il des équipements collectifs, sportifs par exemple, mais les salles et les terrains de foot et de hand sont soigneusement enclos et gardiennés. On y va par l'école, c'est donc une activité obligée, sinon une corvée, tout au moins un devoir. À condition d'être mordu ou doué, on peut y aller en dehors de l'école, mais c'est alors suivant des règles strictes et moyennant cotisations, frais d'équipement, conditions que peu d'enfants finalement peuvent réunir. Jadis, dans le tissu des villes, le territoire de jeu des enfants était constitué par les interstices que laissait le territoire de vie et d'activité des adultes. Il y avait toujours un terrain vague, un jardin en friche, une ruelle propice. Par la nature du peuplement du quartier, le terrain de la rue du Pré-Saint-Gervais aura sans doute été l'un des plus chargés en aventure, en histoire. Un de ceux où les enfants auront eu à assumer le plus leur liberté, leurs relations, à éprouver le plus leur pouvoir et ses limites. Par cette liberté première et par les possibilités qu'offre le terrain, activités, transformation de l'espace, conflits, prise de décision collective, etc., l'enfant possède un pouvoir réel. Ce pouvoir lui permet de s'affronter aux matériaux, aux autres, aux risques, de créer son aventure, de réaliser ses projets, d'être maître de lui-même, de laisser sa trace et d'être reconnu. L'autre point à mettre au bénéfice des terrains d'aventure, c'est le rapport des enfants à la temporalité. Faire du feu les soirs frisqués d'automne, éprouver la durée de construction et d'usage d'une cabane, d'une piste à luge. En d'autres termes, être aussi maître de la durée de son jeu, de son projet, en y faisant participer la réalité physique du cycle des saisons. N'est-ce pas échapper tant soit peu à la standardisation du temps qui est l'un des avatars des villes d'aujourd'hui ? L'association Place des Fêtes Avenir propose l'ouverture d'un terrain d'aventure après un article paru dans Le Monde. La demande est faite au Conseil de Paris qui se montre réticent. Après 18 mois de pourparlers, le terrain ouvre le 26 juin. L'échantillon social des enfants est diversifié. Ils sont plutôt jeunes, de 5 à 11 ans. Les activités tournent autour de petites cabanes éphémères, de cabanes à plusieurs étages et du feu. Avec la venue de la bande de la rue de l'Orme, constituée d'enfants de 6 à 15 ans, l'ambiance devient tendue. Ils ont l'habitude de vivre dans les rues et ont une réputation de voyous. Leur action sur le terrain est dure. Ils cachent du matériel, allument des feux et y jettent des aérosols et du fibrociment qui explosent. Avec les beaux jours, un certain calme revient. Une autre bande, celle de la rue Gaston-Pinault, investit le terrain. Un léger retrait des enfants venant des quartiers plus aisés se fait sentir. Les cabanes tiennent toujours la première place des activités, avec le feu. Le 27 avril, une fête est organisée sur le terrain. La veille, une soixantaine d'enfants y jouent. Le jour, beaucoup d'adultes viendront discuter, mais les enfants ressentent cette présence comme une intrusion dans leur domaine. Pendant les 15 jours suivants, ils boudent le terrain. La bande de la rue du Docteur Potin accapare le terrain et tente d'en exclure les plus petits. Cette bande est plus créative que les deux précédentes, plus structurée aussi. Elle possède ses lois et ses interdits. Ses constructions sont plus recherchées, plus équilibrées. Lorsqu'éclatent des bagarres, il existe une certaine loyauté. Ces enfants discutent beaucoup plus avec les animateurs de leurs problèmes, de la famille, de l'école. Pourtant, ils passent eux aussi pour des voyous dans leur quartier. Après avoir épuisé les ressources du terrain, les enfants de la rue du Docteur Potin ont commencé à agresser les animateurs. Insultes à caractère sexuel, puis une régression spectaculaire. Pendant une quinzaine de jours, ils manipulent de la merde et en font des soupes qu'ils projettent sur les cabanes. Ensuite, ils détruiront leurs propres cabanes. Plus tard, des adolescents et des plus jeunes organisent des descentes dans les magasins du quartier. Embuscade avec la police qui les embarque au commissariat. À leur retour, grande discussion, un climat de confiance s'établit. Dans le même temps, la construction de plusieurs grandes cabanes, dont celle à 3 étages, amorce un nouveau climat relationnel sur le terrain. Les conflits entre adolescents et les plus jeunes, et ceux entre adolescents et animateurs, se règlent par des échanges, des discussions, et non plus par une agression à sens unique. Les astuces de construction, les subtilités dans l'aménagement de l'espace, et les joies des constructeurs qui découvrent qu'on peut modeler la tôle ondulée, la clouer, en habiller une ossature, se faire une cabane sur mesure. Comment faire pour travailler à la bonne hauteur, pour se donner un accès au toit, pour faire ceci ou cela. D'abord, la bonne technologie, celle issue de la logique et du jeu. L'enfant découvre ainsi que la maîtrise de l'espace, c'est la maîtrise d'une technique, plus le plein usage maîtrisé de son corps. Outre la technique du moisage et du contreventement, les gamins découvrent empiriquement la mécanique des forces. Les accidents sont rarissimes car l'enfant progresse à son rythme. Et n'est-il pas celui qui connaît le mieux ses capacités ? Faire basculer l'échelle à deux bras, prudemment, contrôler sa chute en la faisant décoller, puis la porter à bout de bras avec ivresse. Ni à l'école, ni au centre aéré, ni en colo, il n'est question de maniement d'échelle. Comme jadis, à la campagne, l'enfant, sans singer l'adulte, accomplit un travail qui est à la fois jeu et exploit autonome. La conquête de l'assurance, assurance de son propre corps, est faite d'une succession de tels exploits. Une auge à gravier, venue des abords d'une bétonneuse d'un chantier voisin, les quatre roues d'une poussette de récupération et des plaques de tôle ondulée, voilà pour la mise en œuvre d'une source de plaisir. Et le classique toboggan, plus ou moins design des aires de jeu, paraît d'autant plus fade. Cette auge sera tour à tour conquise par d'autres, reconquise, défaite, refaite, déplacée, copiée, etc. Sur le terrain d'aventure, le saut de la mort est une épreuve propitiatoire pour les enfants. Aussi s'y entraînent-ils très jeunes. Nombreux sont les rituels qui comportent une épreuve de saut plus ou moins redoutable. Sans aller jusqu'à parler de rites de passage, sans faire d'analogie abusive, on peut voir à quel point le terrain d'aventure, comme bien d'autres, où la liberté gestuelle allait de soi, a été le théâtre d'exploits assez peu communs. « Si tu leur cries « Attention, ils se cassent une patte », disait Béatrice. « Mais personne ne s'est jamais rien cassé. » Sur la photo de droite, on peut voir un gamin de 11 ans sauter plus de 4,50 m. Manger ce qu'on a cuit soi-même, dans un four par soi-même construit, des anthropologues de haut renom ont écrit des pages tout à fait pertinentes sur l'importance de l'acquisition culturelle que constitue l'aptitude à cuire ses propres aliments. Malheureusement, il n'y a pas eu d'anthropologue distingué pour défendre le dossier des terrains d'aventure à Paris. Le terrain d'aventure est l'endroit idéal de la discussion. Parler, palabrer, s'interpeller, se chicaner ou simplement rire. Ici, on parle argot, mais aussi une rude langue gaillarde. Bien des linguistes pourraient découvrir là ce que signifie une langue qui vit. Témoignage de l'esprit d'invention des enfants et des adolescents, de leur capacité de création, de leur savoir-faire en liberté. Cet album renvoie chacun de nous à cette interrogation. Pourquoi un lieu aussi nécessaire a-t-il dû, comme tant d'autres, cesser d'exister ? Que faire pour que des lieux aussi nécessaires aux enfants aient droit de cité dans nos villes, non plus à titre d'expérience, à titre temporaire ou comme dépotoir à gamins, mais de plein droit ? Dans les villes où les lieux pédagogiques seraient enfin plaisants, il y aurait place, enfin, et entre autres, pour les jardins ouvriers, les figuiers, les cerisiers, les lilas et la couleur sur les murs. Les quelques terrains imposés par les associations de quartier ne seront tolérés que le temps des chantiers durant. On peut alors y voir cette association d'équivalence. Chantier égale situation provisoire, terrain d'aventure égale chantier, et donc terrain d'aventure égale situation provisoire. Mais le grand œuvre, l'événement majeur du terrain, qui ne sera jamais détruit, sauf par les démolisseurs qualifiés, c'est la grande cabane. Érigée au centre du terrain dans le cratère du Bulle, elle sera en quelque sorte son beffroi. Chef-d'œuvre collectif d'enfants que pour la plupart d'entre eux la société voue à ne jamais devenir compagnon, bâtisseur à part entière. La grande cabane, par sa présence même, va interroger l'environnement, le cadre de vie, comme on dit dans les ministères. En dépit des rivalités, des tensions que son appropriation et son usage susciteront, la grande cabane sera le lieu jubilatoire de l'intimité des gamins et des gamines, le lieu de la liberté de cette intimité. Ici, le bonheur des enfants éclate. C'est le bonheur du rêve possible, du rêve vécu. Sur la photo, deux jeunes êtres sont heureux avec abandon. Mais à l'instant même où cette image est saisie, la grande cabane n'en a plus pour longtemps. L'aménageur et ses scrappers vont bientôt passer. Puis le constructeur et ses bétonneuses. Ils vont normaliser l'espace, suivant les directives des décideurs. C'est à eux que le poète semble s'adresser quand il écrit « Tu vieillis dans la démolition des rêves ».
Pandemax, la radio des Flipax.
Le prochain morceau de musique confinée nous a été envoyé par Bastien de Metz. C'est son premier morceau réalisé à l'ordinateur. Et oui, confinement oblige.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Dans ces temps troublés et incertains,
de nombreuses personnes stressées ou d'un naturel
anxieux
ressentent la situation actuelle d'une manière très douloureuse et veulent être rassurées.
Elles appellent en masse le 15
et saturent ce numéro d'appel.
Ne le faites pas.
Ce n'est pas leur première mission.
Appelez d'abord votre médecin traitant au téléphone, plutôt que vous déplacer chez lui, à aussi vous conseiller sur la marche.
Et surtout, sur votre angoisse
et votre peur.
Avec
cette méthode
révolutionnaire qui est violée, c'est gratuit,
c'est simple
et c'est efficace.
Si vous voulez comprendre
les rouages scientifiques de cette méthode, je vous donnerai accès
à d'autres vidéos et des autres publications.
En attendant, si vous êtes angoissé,
suivez-moi.
Faites comme moi. Commencez par stimuler tranchant de votre
main à l'endroit où je suis, moi-même.
Même si j'ai peur de ce virus et d'être moi aussi contaminé.
Que mes proches sont contaminés.
Je m'accepte tel que je suis.
Et c'est
bien normal d'avoir
c'est
peur.
C'est normal.
Et mon vrai meurtre, mais aussi des chances oubliées. Vous dites ici des phrases et des idées noires que vous avez en tête. Je vous donne des exemples de ce que vous pouvez
adopter
en fonction de ce qui vous semble juste
et pertinent.
Vous me suivez
sur le sommet de la tête.
J'ai peur d'être contaminé. J'ai peur que mes proches soient contaminés.
J'ai peur que mes proches
soient contaminés. J'ai peur de ce virus.
Sous les yeux. J'ai peur de ce que je vois à la télévision. Je me sens anxieux.
Toutes ces sensations dans mon corps.
Toutes ces sensations dans
mon corps. Sous les canicules. Toute cette peur dans mon corps. Sous un des bras. Personne ne sait où ça va aller.
J'ai peur pour moi.
J'ai peur pour moi.
J'ai peur pour ma fille. J'ai peur pour mes enfants.
Et sur le dos de la main,
on appelle le point de gamme. Vous enchaînez ensuite sur une deuxième onde. Je vous donne toujours des exemples de phrases.
En fonction de ce que vous sentez juste.
Et donc, sur le sommet de la tête,
c'est bien
normal. Ah,
c'est naturel d'être. Par solidarité et durant toute la pandémie, cette formation sera gratuite.
En raison d'un appel à la crève, nous sommes dans l'impossibilité de diffuser nos programmes habituels. Nous vous proposons donc quelques rediffusions de saison.
35 morts en deux jours quand même, je commence à être très sérieusement inquiet.
Ouais, c'est exactement ce que recherche la mort. C'est que vous paniquez, mon petit vieux, et vous êtes pile en train de tomber dans son piège.
Attention, Jean-Luc, tu ne respectes pas les normes de sécurité.
Mince, la mort va encore frapper. Jean-Michel, au-dessus de toi, juste au-dessus de...
Ah là là, il y a beaucoup trop d'actes de décès à traiter, c'est interminable. Envoyez-moi ça aux pompes funèbres, Nicole.
Bureau de Monsieur Berthier, j'écoute. Oui, ne quittez pas. C'est la mort pour vous.
Ah. C'est pas trop tôt.
Bon, écoutez, la mort, maintenant vous nous laissez tranquille, ok? On est en train de prendre énormément de retard à cause de vous.
Un suspense insoutenable qui vous tiendra en haleine pendant au moins 2 heures de cauchemar éveillé. À vous demander qui se cache derrière la mort depuis le début de cette histoire. À vous demander, mais qui ça peut bien être, en fait?
Allô, Berthier? C'est Ranu. De la compta. C'est pas pour vous spoiler, mais je voulais vous dire que la mort, c'était moi depuis le début. Au revoir.
Ça y est, je suis président. Et non, je te suicide dans un parking.
Tiens, fausse facture, voilà pour toi.
Joker, immunité parlementaire.
J'aurai ta peau, tous les coups bas sont permis.
Papa, c'est pas grave si je te dis que je suis socialiste alors que j'étais au Front National au premier tour.
Au contraire, ça t'aide à gagner.
Oh mince, j'ai besoin de 100 millions.
Eh bien, tu n'as qu'à prendre une carte magouille et puiser dans les caisses de l'État.
Super. Papa, tu triches.
Oui, mais j'ai le droit.
Oh mince, c'est pas juste, je me retrouve avec le Parti communiste.
En famille, pour initier vos enfants à la vie politique, j'aurai ta peau. Un jeu Fernand Satan.
Pandémax, la radio des flipax.
Ouais, cauchemar, ouais.
Le prochain morceau nous a été envoyé par Adrien de Lille. On lui fait un gros coucou. Il est dans un petit appartement. Il a l'habitude de jouer du saxophone, mais là, il peut pas à cause des voisins. Du coup, il nous a improvisé un petit morceau à la mandoline et à la voix.
Thank you.
en est fini de cette deuxième émission de Pandemos.
On pense bien à toute la clique de Bureau Falaise à Brest, le Toulcus Crew,
les copains-copines de la Rade de Brest, Malo 7,
les potes d'Aveyron et de l'Aveyron,
Pierre, la clique de Saint-Julien de la Molette,
la Clède, la vieille bande d'Amiens,
les potes de Grenoble,
Saint-Étienne,
Marseille,
Dijon, petit clin d'œil à la coloc de Saint-Jean-du-Gard,
à la bande de l'Étuve. On en oublie et on vous dit à la prochaine.
148 moutons, 149 moutons, 150 moutons, 151 moutons, 152 moutons, 153 moutons, 154 moutons, 155 moutons, 156 moutons, 157 moutons, 158 moutons, 159 moutons, 160 moutons, 161 moutons, 162 moutons, 163 moutons, 164 moutons, 165 moutons, 166 moutons, 167 moutons, 168 moutons, 169 moutons, 170 moutons, 171 moutons, 172 moutons, 173 moutons, 174 moutons, 175 moutons, 175.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Et voilà, gros big up à Pandemos, la radio des flippos qui nous a bien fait marrer. Et nous, on va arrêter là l'émission et se tirer sous ce soleil de plomb. On vous fait des grosses bises et on vous dit à demain. On vous laisse avec un petit morceau de Anamura à Fadista.
Vestido negro cingido, cabelo negro comprido e negro chale bordado. Subindo à noite à avenida, quem passa julga a perdida, mulher de vício e pecado. E vai sendo confundida, insultada e perseguida pelo convite costumado. Entra no café cantante, seguida em tom provocante pelos que querem comprá-la. Uma guitarra a trinar, uma sombra devagar avança para o meio da sala. Sentam-se à mesa a olhá-la. e tão profundo, que vindo do fim do mundo é prece para
Bisous.